vous en fera voir de toutes les couleurs. Les lundis à 18h, plongez dans l'œil de la diversité sexuelle et de genre et découvrez l'éventail des textures et des nuances qui reflètent les réalités des communautés LGBTQ+. Un animateur passionné et des invités allumés vous offriront une palette de rubriques sociales, culturelles et politiques au rythme d'un son des plus éclectiques. Le Kaléidoscope, c'est votre espace pour faire rayonner les identités queer. Retrouvez-nous le lundi à 18h sur les ondes de CKIA FM 88.3.
Bonjour, ici Aude Malaret et voici vos nouvelles du mercredi 13 avril. Le projet de loi 34 visant à améliorer l'accès à la justice en bonifiant l'offre de services juridiques gratuits ou à coût modique a été déposé cette semaine à l'Assemblée nationale. Cette proposition législative prévoit que les avocats et les notaires travaillant au sein de personnes morales sans but lucratif pourront offrir des conseils juridiques sans frais ou à coût modique aux citoyens qui, autrement, n'auraient pas les moyens d'y accéder. Les avocats pourront également représenter les citoyens devant les tribunaux, tandis que les avocats à la retraite pourront revenir à la pratique au sein de ces OBNL et ainsi mettre leur savoir-faire et leur expérience au service de la société. Jusqu'ici, les organismes ne pouvaient que dispenser de l'information juridique, ce qui excluait tout autre service juridique, comme les conseils ou la représentation. Tant le barreau du Québec que les diverses cliniques juridiques se réjouissent de ce pas vers un accès à la justice pour toutes et tous. À la suite de l'Assemblée générale annuelle de CKIA, le conseil d'administration de votre station a le plaisir d'accueillir de nouveaux membres, soit Mariam Bessiri, Suzy Genet et Stéphane Martinez. Les officiers ont été nommés lors d'une rencontre spéciale plus tôt cette semaine. Pascaline Lamar poursuit à la présidence. La vice-présidence a été accordée à David Lemelin. Au secrétariat, Suzy Genet, tandis que la trésorerie sera de nouveau sous la responsabilité de Stéphane Michaud. Les trois administrateurs sont André Gauvin, Mariam Bessiri et Stéphane Martinez. Merci à toutes ces personnes qui acceptent de s'impliquer de façon directe dans la vie de CKIA. Ce soir, à 19h, au dôme du centre Jacques-Cartier se tiendra la conférence « Comprendre les enjeux et l'histoire de la guerre en Ukraine » avec Aurélie Campana, professeure de sciences politiques, spécialiste de la Russie, et Anessa Kimball, professeure agrégée au département de sciences politiques de l'Université Laval. Cette conférence vise à en apprendre plus sur les faits et les origines de ce conflit. Quels sont les enjeux? Quel positionnement a l'Europe? L'OTAN? Comment imaginer qu'en 2022 ce soit encore une réalité d'avoir une guerre en Europe et ce qu'elle implique? Pourquoi parle-t-on autant de ce conflit comparativement à d'autres? Ce sont des questions auxquelles les conférencières répondront. L'événement est co-organisé par le Centre Jacques Cartier et Québec en décroissance. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui...
Bonjour et bienvenue à l'émission Le Jardinier Père Reçu sur les ondes de CKIA, FM et aussi Facebook Live. Je m'appelle Larry Hodgson et comme chaque semaine, je suis dans mon bureau au sous-sol. Donc, bien ce qu'on sait... protéger des intempéries, pas qu'il y en ait, parce que il fait beau ces temps-ci. Belle journée de printemps, la neige fond, je sais, bien les endroits plus de neige, mais ici, au moins ça fond, et on sent que le printemps s'en vient. Donc, on est très heureux de voir ça arriver. Ça paraît beaucoup dans nos plantes de maison, qui reprennent une vie avec cette lumière qui dure de plus en plus longtemps et également dans nos semis qui commencent à pousser. J'en ai pas très beaucoup fait encore. C'est vraiment les prochains jours que je commence à faire mes semis parce que je suis pas une sème vite, quoi. Mon expérience est que quand on sème, faut semer au bon moment, pas plus tôt. Donc, on arrive à la période où on va commencer à faire des semis vraiment en moins de fond. Et voilà pour ça. Donc, Michel.
Je reviens sur ce que tu viens de dire. Tu es un semencier paresseux. Malheureusement, ce matin, c'est ultra tranquille jusqu'à maintenant. Donc, j'imagine que tu as quelque chose du côté courriel.
C'est qu'on va aller voir. J'ai une question ici qui est de la part de Ghislaine qui dit « Je n'ai plus le jardin et ton locataire. Je suis tombée amoureuse d'une plante de mandevilla. Au lieu de le jeter à la fin de l'été, je l'ai placé dans un coin pas loin d'une fenêtre avec un peu d'eau durant l'hiver. C'est un essai. Pensez-vous qu'il va refleurir, refaire des fleurs dès que je remplacerai sur le balcon quand la température est assez stable pour ces 15 degrés? Et merci de vos conseils. » Oui, probablement. Pas de problème. C'est le genre de choses qui arrive. Cette plante-là est une plante tropicale, dormance, pas nécessairement besoin de ça, mais elle n'aime pas les jours courts de l'hiver. Hein. Veux pas. Nos hivers, avec nos jours de 10h, 9h, 10h, ça lui fait peur. Hein. Soit qu'elle arrête de pousser, ou elle fait des tiges grêles, minces et petites feuilles. On peut les couper, ce serait bon de parler pour faire ça. Une taille généralisée, enlever les branches trop longues, et après, on laisse pousser. Parce qu'à partir de maintenant, les tiges qui poussent vont être plus solides, ils vont être capables de fleurir. Et bien sûr, 15 degrés, c'est pas une mauvaise idée. On va aller de ça. C'est pas une plante à sortir trop tôt. C'est une plante qui aime la chaleur. Donc oui, on pourrait la sortir à ce moment-là.
Voilà. On a quelques questions qui viennent de se pointer le bout du nez, si on peut dire. Jeannette Ouellette. J'aimerais un conseil pour l'arrosage de mes semis. Si j'utilise un vaporisateur sur le dessus, je dois arroser tous les jours. Si je mets de l'eau dans le plateau, le dessus demeure sec après 45 minutes, 1 heure. J'ai donc laissé toute la nuit et mes caissettes sont détrempées et lourdes.
Bon, dans un cas comme ça, de toute façon, c'est un peu trop. Vous savez que même si l'eau n'est pas rendue complètement haut du terreau, quand vous mettez, parce que l'idéal, parce qu'on peut vaporiser, bien sûr, mais c'est vrai que ce n'est pas très efficace. Il faut le faire souvent. Si vous faites tremper, l'eau ne monte pas toujours complètement haut au bout de 40 minutes, mais est en train de le faire. Donc, laissez faire après, une demi-heure à peu près, et l'eau va continuer de monter un peu plus, et vous allez avoir un terreau qui est raisonnable. Dans le cas actuel, bien sûr, ils sont détrempés, ben, arrosez pas. Les plantes vont boire. Et s'il y a de l'évaporation, vous avez beaucoup, beaucoup de l'eau qu'on donne, part certainement à l'air. Fait que l'évaporation va faire son effet. Vos plantes vont bientôt dans une situation normale.
Sarah Pilon-Savoie. Je me demandais pourquoi il n'est pas recommandé d'avoir une plante dans un trop gros pot.
La raison pour ça est peut-être un peu compliqué, mais je vais l'expliquer. C'est que la situation idéale pour toute plante dans un milieu artificiel qui est la culture en pot, c'est quand même pas comme ça que ça pousse en nature, c'est d'avoir toujours un petit peu d'eau à côté des racines que les racines peuvent aller absorber au besoin. Si vous mettez un pot trop gros, les racines vont s'étendre, mais ne couvriront pas tout le terreau. Donc, ils vont avoir à travers le pot trop gros, cette masse de terre, il va aller des spots, des coins où l'eau ne s'évapore pas et que les plantes n'arrivent pas à absorber. Il va avoir un surplus d'eau par endroit. Et dans cette partie-là, qui ne s'assèche jamais, il peut se développer des microbes, vu que c'est un milieu avec peu d'aération. Donc, ça peut causer de la pourriture. Pas nécessairement, mais l'idée est d'éviter ça. Si on regarde dans un pot de taille raisonnable, avec les racines partout, il n'y aurait pas ce danger-là qui est les poches où il manque d'air, dans le fond, où l'air ne circule jamais. Et donc, il n'y aurait pas de stagnation et vous aurez plus de succès. Voilà.
Le prochain truc, c'est pas une question, c'est un commentaire de Thérèse Forand qui dit « À propos de ton mur végétal, J'aimerais féliciter ton fils pour son beau travail et surtout pour l'amour qu'il a pour son père. Passe une belle journée.
Oh, merci, mais je l'apprécie. Vous savez, c'est drôle à dire, hein? Mais j'en veux juste un mur. Et ce mur-là, c'est plus que ça. C'est une expérience que longue haleine, j'ai beaucoup aimé, et le voir revivre. Et c'est, je parle de vivre, ça vit, c'est vivant ce mur-là. Et donc, le voir revenir, j'ai apprécié au plus haut point. Je sais que je suis chanceux d'avoir un fils qui m'aide énormément. Et ça, vraiment, là, pour le côté familial, je ne peux pas demander mieux. Mon fils, mes beaux-enfants, tout le monde est tellement bien avec moi. On attend encore sur tout. C'est extraordinaire. J'ai de la chance, mais vraiment de la chance. Et je l'apprécie.
On va y aller maintenant avec une question de Aiden Knight qui dit « Contente de vous voir en forme. J'ai une haie de chia tout le tour de ma maison qui mesure plus de 10 pieds. Elle est envahie par une vigne vierge. Celle-ci a un tronc d'environ 4 pouces de diamètre à certains endroits. Elle a endommagé une partie de la haie dans le haut où il ne reste que les branches nues. À ce point-ci, j'hésite entre couper la vigne à la base ou la contrôler parce que la haie paraît mieux avec les feuilles. Qu'en pensez-vous et comment réaliser la tâche que vous me proposez? Merci.
OK, d'accord. Dans une cas comme ça, c'est que évidemment, des sections qui n'ont pas de feuillage dans la haie, pour ceux qui n'ont pas saisi pourquoi, c'est tout simplement parce que la vigne vierge, ce n'est pas la vigne vierge qui est tendre, de quoi que ce soit comme ça, tout simplement, quand avec ses grosses feuilles, c'est elle qui se place pour prendre le soleil. Et c'est ça qui arrive avec les grandes plantes. Dans la nature, elle grimpe sur les plantes. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais la plante en arrière, elle a d'autres branches. Elle dit, il y a trop d'ombre ici. Je vais me concentrer et pousser ici et là, pas juste derrière là où il y a de l'ombre. Donc, c'est ça que ça arrive. Et évidemment, si vous coupez complètement la vigne, vous allez avoir des trous qui vont tranquillement se remplir probablement. Mais si vous voulez les garder, la vigne est, pas que ça s'empire si on veut, ou ça s'éteint, il va falloir vous revenir à tailler, tout simplement. Elle contrôle la vigne, parce que la vigne vierge, je ne veux pas. Elle est une plante intéressante à beaucoup de niveaux, mais elle est envahissante, hein? elle domine. Donc, à un moment donné, il faut peut-être le contrôler. Moi, j'aime beaucoup cette plante-là. Je sais qu'elle a des défauts, mais elle fait une très belle effet. Et en plus, de nos jours, on essaie d'encourager de plus en plus la culture de plantes. Et voilà, la vigne vierge, c'est parfait. Ça nourrit les oiseaux, ça nourrit les pollinisateurs, c'est une plante indigène. À ce niveau-là, elle est très, très bien. Donc, soit vous coupez et vous laissez la plante récupérer, ou encore vous laissez pousser, mais vous coupez des branches qui vont trop loin. Et là, vous devrez avoir un certain contrôle là-dessus.
Prochaine question de Sylvie Lachance. Lorsque nos semis sont, entre guillemets, manqués, ils ne poussent pas. Peut-on réutiliser la terre?
Oui, mais pas pour faire des semis. C'est que les semis, on sait que c'est fragile, c'est jeune, ils n'ont pas encore des racines, ils n'ont pas développé de résistance. Donc, ce qu'on va faire dans un cas semblable, c'est d'utiliser le terreau ailleurs pour remporter une plante intérieure, par exemple, pour remplir des pots quand on fait des jardinières, c'est pas fait. Pour terroter le terrain, ou rajouter de la terre, un jardin. Ça peut servir à ça. Mais je ne ferai pas de semis là-dedans. Je ne ferai pas de bouture là-dedans. Pour les deux, j'aimerais garder un terreau plus stérile, tant que ce n'est pas parti, qu'un terreau qui est comme un des microbes qui sont réveillés. Et on sait que les microbes, en bonne partie, les microbes dans un terreau sont bénéfiques en bonne partie, mais des fois, ça peut prendre un peu de place et certains peuvent être nuisibles. Donc, moi, je dirais garder ça pour autre chose, pas pour les semis et pas pour les boutures.
Sylvie Brousseau, quand devrais-je enlever les protections de jute de mes petits poiriers?
Dès que vous avez accès. C'est sûr que la neige n'est peut-être pas partie chez vous. Là. Je ne sais pas où vous êtes. Je sais que chez nous, le fond de terrain, ben là, si j'avais une protection, je ne serais pas capable de l'enlever encore. Mais dans d'autres parties de la province, il n'y a plus de neige. Donc, on enlève les protections qu'on a comme ça. C'est pas protégé contre le gros foie. C'est fini, il n'y a plus de danger, le gros foie. Et dès que ça sent, que la neige fonde et qu'on accède, enlever les abris. C'est nuisible même, vous savez, à la plante de garder un abri trop longtemps. Ça peut chauffer à l'intérieur, stimuler une croissance trop hâtive, et en cas d'un boirier notamment, ça peut provoquer une floraison trop hâtive qui va se faire geler. Fait qu'on est mieux de laisser Dame Nature s'en occuper. Enlever l'abri.
Une autre question de Aiden Knight. J'ai essayé de faire germer des bulbes de caladium en lica. C'est la première expérience et j'ai fait pourrir mes bulbes. J'ai supprimé les parties pourries, saupoudré de cannelle et laissé sécher quelques jours. Mes bulbes sont-ils toujours viables? Certains ont perdu le tiers. Vos meilleurs conseils pour les faire fermer. Merci beaucoup.
Bon, écoutez, je ne peux pas savoir exactement ce qui va se passer. Je voulais juste que les gens saisissent quand M. Knight, je pense que
c'est ça. Oui, Eden Knight, oui, c'est ça.
Quand il parle de l'ICA, c'est des boulettes d'argile, hein? Boulettes d'argile qu'on utilise pour l'hydroculture. Et théoriquement, ça aurait pu marcher. Hein? Ça aurait pu marcher, les partir dans du l'ICA avec un fond d'eau. On n'aurait pas dû mettre assez d'eau pour que les bulbes trempent dans l'eau, mais que les bulbes soient dans le LECA avec de l'eau au fond, qui aurait une montée par capillarité, assez pour repartir. Et pour des raisons qu'on ne comprend pas nécessairement, il y a une pourriture qui a commencé. Donc, vous avez bien fait pour essayer de contrôler. Et tout ce que vous faire maintenant, c'est attendre. Vous allez voir s'il y a de vie ou pas. Si vous voyez des nouvelles pousses paraître, vous pouvez les planter, tout va bien aller. S'il n'y a rien qui pousse, c'est trop tard. C'est sûr que ça peut être miner un peu la force de la plante. Elle était déjà en dormance, et là, on enlève une partie. Mais j'ai une bonne espérance que vous serez sauvé au moins une partie de vos bulbes de caladium.
Une autre question de Sylvie Lachance. Doit-on découvrir nos potagers surélevés de leurs feuilles sur la terre et du couvert en bois qui est resté tout l'hiver? Est-ce trop tôt? Zone 4B.
Oh, merci beaucoup pour la zone, ça m'aide des fois. Moi, je n'ai jamais couvert mes contenants. Fait que, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? De toute façon, le but devait être pour empêcher peut-être les mauvaises herbes, des grains de mauvaises herbes d'y arriver. Il n'y en a pas trop à cette saison-ci. De toute façon, moi, je l'aurais enlevé. Ça ne sert pas à grand-chose que je puisse imaginer. Et ça va commencer tranquillement à laisser le terreau se réchauffer en vue de la plantation plus tard. Alors moi, je l'enlèverais, oui.
Brigitte Roy te demande, t'écrit, « J'ai parti des semis de betteraves, oignons et poivrons. Ils commencent leurs vraies feuilles. Je dois partir quelques jours. Est-ce que je devrais les couvrir d'un dôme pour éviter qu'ils s'assèchent? »
Oui, oui. Faites ça. Ça va aider beaucoup. Et comme ça, vous allez pouvoir les conserver. Ça demande moins d'eau. Quand les semis sont exposés à l'air, il y a une énorme perte d'eau et l'évaporation. Le gros d'eau qu'on donne, ça ne va pas aux plantes, ça va à l'air. Si vous mettez un dôme, vous coupez cette perte d'eau. Je ne peux pas garantir combien de temps ça va durer. C'est le genre de choses qu'il faut expérimenter soi-même selon ses conditions. Mais oui, ça coupe énormément la perte d'eau. C'est une excellente façon de protéger vos semis quand vous n'êtes pas là. Oui.
Dorothée Beauséjour, j'ai pris deux boutures de mon Brugmansia planté dans un terreau pour bouture, mais les feuilles sortent et se replient sur elles-mêmes. Je ne vois pas d'insectes. Qu'en pensez-vous?
Ben moi, de toute façon, vous pouvez faire plus. Moi, je mettrais quand même peut-être un sac de plastique transparent ou un dôme quelconque pour donner une bonne humidité, peut-être pour aider les feuilles à s'ouvrir. C'est peut-être que l'air est trop sec chez vous. Ça arrive l'hiver, hein? Mais avec la température qui se réchauffe à l'extérieur et les jours qui se rallongent, ça devrait être correct maintenant, je pense. Mais essayez ça avec un sac pour voir si quelque chose. Et aussi, ben, je ne sais pas les conditions, si jamais c'est frais dans ce secteur-là, c'est sûr que ce serait bien de le mettre plus à la chaleur. Ce n'est pas une plante qui aime le froid. C'est une plante tropicale qui aime la chaleur.
Brigitte Roy revient avec sa même question, mais avec un quelque chose de plus précis. Elle dit, j'ai aussi des jeunes pousses de Salvia Big Blue. C'est dans celle qui était pour partir en voyage ou je ne sais pas trop.
Oui, c'est des boutures. Oui, même chose. C'est même plus sûr dans un sens, parce qu'un bouture habituellement, parce que là, je présume que les pousses de Salvia se sont dans des boutures, ont des racines plus abondantes et ça devrait être encore mieux. Aucun problème. Moi, j'ai passé des années de temps à faire des voyages à gauche et à droite et je mettais les plantes dans des sacs de plastique transparents. J'étais très négligent. Je les mettais dedans, je serrais le sac dans le coin et je revenais quelques jours plus tard, tout était beau. Fait que je ne vois pas pourquoi. Si vous faites encore plus attention que moi, je ne vois pas pourquoi vous aurez des problèmes avec ça.
Sylvie Lachance, mes tulipes se pointent. J'avais mis un grillage pour ne pas faire manger les bulbes. Dois-je enlever ce grillage assez petit? Mes tulipes pousseront-elles au travers?
Ah, c'est à vous de décider. C'est que les tulipes vont passer à travers. Aucun problème. Dans la nature, vous savez, selon la nature, c'est de trouver un trou et de pousser. Je crois que les pousses sont pointues. C'est pour sortir. Donc, non, il n'y aura pas de problème. Par contre, est-ce que vous voulez laisser ça une partie de la saison? C'est ça la question. Ça dépend pourquoi vous les avez mis. C'était juste pour les écureuils. Les écureuils ont oublié qu'ils sont étudiés. Elles ne savent plus. Les écureuils ne savent plus, donc ce n'est plus un problème. Si c'était pour créer une surface, par exemple, vous ne voulez pas que les champs marchent, laissez les grillages en place. Il n'y a pas de problème avec ça.
Sarah, pilonce ta voix. Pourquoi il n'y a pas de semences d'échinacées, paro, hot papaya ou encore salsa red en vente? Pourquoi l'offre de semences est si limitée?
C'est parce qu'il n'est pas facile d'offrir des cultivars sous forme de semis. OK, on va prendre l'exemple. Salsa red, qui est une échinacée rouge, mais flamboyant. Quelle couleur! Wow! Mais c'est un hybride entre différentes vérités précédentes, je ne sais pas lesquelles, mais quand vous prenez des semences, toutes ces choses se remélangent, les gènes se remélangent. Comme pour un être humain, vous savez, vous avez beau avoir une paire aux cheveux noirs, une mère aux cheveux bruns, vous pouvez avoir un enfant aux yeux, aux cheveux rouges, aux cheveux blonds, tout peut ressortir dans la génération. Donc, avant de pouvoir offrir une plante qui se maintient facilement, fidèlement, par semence, ça prend beaucoup d'efforts et ce n'est pas toujours possible. Donc, quand on a des lignées fixées, on a dans un autre nombre de vidéos, supposons qu'on pourrait appeler une nouvelle lignée, qu'on a réussi à force de répéter les règles, à choisir une vérité qui donne à chaque fois une vérité à fleur double, rouge, je m'excuse, comme ça, ça. Là, on pourrait lui donner un nouveau nom et le lancer comme nouveauté. Mais les autres, ce sont des hybrides. Ça ne vous donnerait pas exactement la même chose. Et je peux presque vous garantir que si vous semez le grain, les trois quarts vont ressembler tout simplement à la forme sauvage, avec les fleurs roses. Parce que très souvent, quand on fait des semis, l'hybride se retourne plus vers la forme sauvage de l'espèce que les hybrides.
Brigitte Roy, quel amendement ajouter pour rajeunir la terre de mes pots utilisés l'an dernier?
Oh, moi, je dirais avec du compost. Si vous avez du vrai, surtout, ben, même si c'est une compost, comment dirais-je? OK. Les composts qu'on achète en général, il y a des exceptions, bien sûr, mais en général, ce ne sont pas des composts comme tel. C'est du compost avec beaucoup de tourbe ajoutée. Et c'est quand même bien. Et ça ne coûte pas très cher. On pourrait mettre ça pour mélanger, pour donner plus de consistance, pour monter un peu le terreau, ou si vous avez du vrai compost, comme un compost de vers de terre, ou c'est quoi quelle compagnie, Igloco, qui offre un vrai compost qui ne contient pas de tourbe. Dans ce cas-là, mettez-en moins, et c'est une autre façon de monter. On pourrait prendre aussi de la tourbe pour augmenter, ou n'importe quelle terre ou terreau, pour les servir aussi pour à rajouter un terreau qui est comme baissé avec le temps, ou lequel qui a baissé avec les années, pour le remonter et redonner qualité à votre terreau.
Joanne Parent, j'ai un dragonnier qui est long et dont la tige est nue et fine, mais avec de belles feuilles. Si je la taille pour qu'elle se ramifie, comment faire?
OK, ben c'est facile, couper. C'est pas plus compliqué que ça. Couper où vous voulez, ça va refaire des branches. Ce qui arrive avec les dragonniers, les dracénas, c'est que ce n'est pas porté à faire beaucoup de branches. C'est pas une plante portée à ça. Elle va pourtant faire une seule branche pour remplacer, mais des fois deux. Quand on a deux, on est content parce que ça fait doubler l'apparence de la plante. Fait qu'on peut laisser pousser les deux et on peut couper les deux aussi. Avec un peu de chance, ça va se dérouler pour faire quatre, etc. Mais des fois, on coupe la tête et il sort seulement une plante. Ou des fois, on coupe la tête, il sort deux, on est content. Et seulement un se développe et l'autre reste au beau fixe. C'est pas évident de forcer une plante qui fait pas naturellement des ramifications à en faire. Mais c'est la seule chose que vous pouvez faire. C'est la seule chose possible. Si vous voulez que ça se densifie, pour couper la tête. Et la tête, on peut la bouturer, bien sûr, pour nos plantes.
Thérèse Audet, je n'ai pas pris de terreau conçu pour les semis pour mes semences. Est-ce que c'est problématique?
Non, pas du tout. Mais prenez un terreau quand même relativement frais. Là. Pas un terreau, ça, en tout cas, on a parlé tantôt, pas un terreau qui est servi pour d'autres choses, mais un terreau, tant ou pas, vous savez, il n'y a pas une vraie différence majeure entre un terreau pour semis et un terreau pour plantes intérieures. C'est à peu près la même chose. Même, je ne sais même pas s'il y a une différence. Vous savez, dans le monde où on vit, souvent le marchand va changer l'étiquette et vendre le même produit sous un autre nom. Ça, on voit ça tout le temps. Donc, parce qu'on peut faire les semis facilement dans un terreau d'empotage ou un terreau pour plantes intérieures. Et ça convient très, très bien. Il n'y a pas de problème à faire ça.
Sylvie Durette, j'ai un mandalia depuis 5-6 ans que je sors l'été seulement, évidemment. Belle floraison l'année 1. Depuis, c'est ordinaire. Pas de floraison l'année 4. De façon réaliste, quelle est la durée de vie d'un mandalia Mandevilla, si on veut voir ses fleurs?
Oh, ben, il n'y a presque pas de limite. Ça peut durer des années. Donc, par contre, se donner des conditions optimales. La plante aime le soleil, mais beaucoup de soleil, plein de soleil, dans une sol riche, pas pauvre, riche, un engrais régulièrement, du compost qu'on a rajouté, que la plante ait de l'eau, pas au point de pourrir, et que ça manque pas d'eau. Tout ce qu'on peut faire pour aider. Évidemment, cette saison-ci, une bonne taille sévère pour lui donner la chance de repartir à neuf. C'est des choses qu'on peut faire pour augmenter la floraison. N'oubliez pas que ces plantes-là ont été développées pour fleurir massivement l'été avec l'aide d'engrais. Donc, ce n'est pas la forme sauvage, c'est une forme développée qui a besoin de plus d'engrais qu'une plante normale. Donc, allez-y quand même, sans exagérer. Mettez un peu plus d'engrais ou un peu plus souvent. Et de façon à ce qu'il y ait toujours des minéraux, et surtout un petit peu d'azote, ça pourrait aider à stimuler une meilleure floraison avec le mandevilla.
Lise Doyon, est-il trop tard pour semer les poivrons?
On n'a pas du tout. Moi, je calcule quoi? 8 semaines? 8 semaines en 15? Ah non, pas du tout. Aucun problème. Pas de problème. Pas besoin de les partir trop tôt. Un poivron, ceux qui le connaissent, est un peu lent. Plus lent de partir qu'une tomate, mais il n'y a pas de problème. Ça pousse moins vite aussi. La tomate est vite, une fois que ça part. Mais un poivron, c'est juste un peu plus lent. Vous aurez quand même le temps de voir un bel record. Évidemment, je prévois que c'est un poivron adapté. Si vous prenez un poivron du sud, ça va prendre l'éternité avant que ça produise.
Dorothée Beauséjour, elle a une autre question. J'ai une apagante tellement tassée dans son pot que je ne peux pas la sortir de son pot pour la dérempoter. Elle a bien fleuri l'an dernier. Le pot est en plastique épais, pas cassable. Que feriez-vous?
OK. À un moment donné, il va falloir le changer. Il reste quand même. Disons-le au départ. L'agapanthe, qu'on appelle lys du Nil, qu'on appelle quoi d'autre? Lys africaine, je ne sais pas. C'est une plante qui fait des longues feuilles, comme un amaryllis, qui part du sol. Et vous avez une haute tige avec une boule de fleurs en trompette. D'habitude, bleu-violet, des fois blanche. Et c'est une belle, belle plante qui est magnifique en fleurs. Et c'est fleuri en plein été. Donc, on apprécie beaucoup. À cette plante-là, on dit, je n'ai jamais expérimenté exactement, mais on dit que ça aime être serré dans son pot. Donc, ce n'est pas un problème vraiment pour l'instant. Et ça fait beaucoup de racines. Hein? Beaucoup de racines, cette plante-là. Mais à un moment donné, même là, il y a une limite. Il va falloir penser casser le pot d'une façon quelconque. Si ça ne peut pas le faire à la main, moi, les différents produits que j'utilise pas. Parce que des fois, je sors des plantes des pots en cassant le pot. Hein. C'est la seule façon logique de le faire. Donc, c'est soit avec une secrétaire pour ouvrir ou encore une, comment ça s'appelle, j'oublie le nom, ébranchoir. L'outil qu'on utilise pour couper les branches d'arbres.
Un sécateur, Larry?
Oui, mais un sécateur, c'est court. C'est
okay.
Ébrancheur. En tout cas, le nom ne me vient pas à l'esprit. Mais c'est avec des manches plus longues, ça donne plus de pouvoir, puissance. Des fois, j'ai fait ça, mais il faut vraiment des fois couper des pots. C'est une des raisons pour lesquelles, il y en a d'autres aussi. Je ne plante jamais des plantes dans les pots qui ont de la valeur. Pour les pots de valeur, je m'en sers comme cache-pot. Je cultive toujours mes plantes dans des pots bon marché. Et sans, comme ça, s'il arrive quelque chose, bah, j'ai rien perdu. Je peux toujours les envoyer au recyclage. Voilà.
OK. Louise Messier-Luciani. Bonjour, M. Hudson. Un couvre-sol vinca, est-ce qu'il y a du danger de nuire aux cèdres d'environ 4-5 ans? Vinca, vinca, je ne sais pas. Là.
Oh non, 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 pas du tout. Hein. Ce serait excellent. Parce que là, vous avez deux choses en même temps. Vous avez une belle, disons, haie ou culture avec une plante qui est surélevée hiver. Et le vinca ou pervenche, on appelle petite pervenche, fait un beau tapis vert avec des fleurs au printemps, mais ça couvre le sol et ça empêche les mauvaises herbes de pousser. C'est certain que la plante va utiliser un peu de minéraux, donc on pourrait peut-être mettre un peu plus d'engrais pour nourrir des tuyas qu'au normalement, mais autrement, c'est très bien. Les plantes poussent très bien. Dans la nature, vous savez, les plantes se mélangent. Hein? Vous n'avez pas une plante dans l'espace, une plante dans l'espace. C'est toujours un mélange. Avoir un tapis de verdure au pied d'une plante, ça ne nuit pas vraiment à la plante. C'est même une situation presque idéale, moi, je dirais.
Claire, pardon, pas Claire, Gisèle Séguin. La terre de mon jardin est lourde, reste détrempée très longtemps. Que faire pour l'alléger?
Donc, c'est ce que les jardiniers qui connaissent ça, ils vont vous dire, terre lourde, c'est une terre glaiseuse. C'est rempli d'argile, les glaises. D'ailleurs, glaise, argile, je ne sais pas si c'est une différence de sens à quelque part, mais dans ma tête, c'est la même chose. Donc, c'est une terre avec des fines, fines particules qui deviennent denses, 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 et donc, ça devient lourd. Quand il pleut, l'eau prend toute l'été à rentrer, mais quand c'est rentré, ça ne sèche plus. C'est quand même bien dans le sens qu'une terre lourde, habituellement, est riche. Il y a beaucoup de minéraux. Donc, les plantes aiment ça à un certain degré. Par contre, le fait que ce soit détrempé, ce n'est pas bon. Première chose que vous pouvez penser, c'est alléger le sol. Pour alléger, ça prendrait de la nature organique. Que ce soit du compost, que ce soit des restants de bois, que ce soit des feuilles déchiquetées, quelque chose qui contient de la nature organique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a comme une réaction naturelle entre les particules qui les font agglomérer ensemble, quand vous avez des matières organiques, quand l'humus est à côté. Et donc, ça rend le sol extra bien drainant. C'est très, très bien. pas contre. Ça, c'est le problème, c'est la mélanger de bord. Parce que vous savez, quand vous avez un sol lourd, il est difficile de mélanger. Très difficile. Mais ça marche. Faites pas l'erreur de rajouter du sable en pensant aider. Ça, on entend beaucoup comme conseil. C'est à ne jamais faire. D'abord, vous pouvez mettre une quantité industrielle de sable et ça ne change rien. La glaise va simplement l'absorber et ça va faire une masse de, maintenant de glaise avec sable ajouté. Il n'y aurait pas de drainage du tout. C'est vraiment prendre un nature organique. Mais aussi, si vous en mettez juste un peu trop, donc vraiment plus que la moitié de sable, c'est plus de la glaise du tout, c'est du sable. Et c'est pas mieux pour le jardinier. Par contre, je dis tout ça, il reste quand même, faut penser, si vous améliorez le drainage, où va aller l'eau? Donc, il faut quand même être certain que vous avez une place où le souple d'eau peut se drainer. Donc, peut-être penser à un drain français, pour drainer l'eau à une place plus basse. Et là, je peux pas juger juste comme ça. Mais c'est une chose à considérer.
Claire Messier, pardon, je viens de perdre la question, ça a bougé d'une petite seconde. Donc, Claire Messier, je cherche des semences, graines, excuse, je recommence. Connaissez-vous le cochia? Je cherche des semences, graines, et ici en Montérégie, il n'y en a pas. Ce sont des semences annuelles qui font des petits arbustes vers lime qui rougissent à l'automne.
Oh oui, je connais très bien. Je vais vous l'étaler. C'est cochia, K-O-C-H-I-A, cochia. Et il a changé de nom botanique. C'est maintenant Bassia ou quelque chose comme ça. Mais peu importe. Ils se vendent sous le nom de cochia. Et donc, il faut chercher le nom cochia. Si vous cherchez sur l'Internet avec le CH, vous allez trouver des vendeurs de semences. Est-ce que vous allez trouver dans un centre jardin local? Ça, je ne peux pas vous dire. Je n'ai aucune idée qu'est-ce qui se vend dans un centre jardin. Ça peut varier d'un endroit à l'autre, mais ce n'est pas un annuel très courant. Par contre, les vendeurs de semences vendent ça, c'est sûr. Vous n'aurez pas de difficulté à en trouver si vous cherchez sur l'Internet. C'est un excellent annuel. Vous n'avez même pas besoin de le porter dans la maison. Directement dehors, ça pousse vite. Et effectivement, ça ressemble à un arbuste et ça rougit terriblement l'automne. Nous, on ne le connaît pas beaucoup ici. Mais vous devrez voir ce que les Japonais en font, hein. Ah, oh, ils font des merveilles avec cette plante-là. Ça vaut la peine d'aller l'automne au Japon pour voir les magnifiques jardins de cochia. C'est que nous, d'un annuel comme un autre, on ne prête pas plus attention. Mais avec juste son feuillage qui rougit de tellement de belles façons, le cochia est une plante intéressante.
Anne-Claire Lévesque, est-ce que c'est le bon temps pour partir des graines de tomates et aussi pour les concombres? Merci, je vous souhaite de la bonne santé.
Merci beaucoup. Évidemment, ça dépend où vous êtes. Calculons à peu près 5-6 semaines à l'intérieur pour les tomates. Plutôt que ça, ça se fait. Et si vous avez des plantes, moi, je dirais dégingandées, là. Étiolées, étirées, c'est pas l'idéal. Les plantes ont perdu un peu de vigueur. Donc, 5-6 semaines avant pour pisser les plantes là. Pas autant que ça pour les concombres, encore moins. Les concombres ont juste besoin de partir de la maison. D'ailleurs, on n'a pas besoin. On peut semer dehors les concombres aussi. Et si vous voulez partir un concombre, moi, je dirais 3 semaines. Juste pour le partir. Et pour le concombre, comme les tomates ont un peu dérangé les racines, un peu déterré, replanter, ce n'est pas un problème. Les concombres, par contre, n'aiment pas quand. Là, elle est courge, les melons, même catégorie. Ces plantes-là n'aiment pas quand on dérange leurs racines. Donc, c'est mieux de semer les concombres si vous faites dans la maison et semer dans des pots de tourbe ou un autre pot biodégradable. Ainsi, quand vous planterez le pot au complet sans être obligé de déranger les racines. Et les racines vont passer à travers. Voilà.
Tantôt, on parlait d'une dame qui avait de la difficulté à sortir sa plante du pot. Il y a Joanne Guy, qui écrit qu'on peut utiliser un couteau et couper les racines en faisant le tour et ça permet de récupérer le pot sans le briser.
Elle a raison, c'est vrai. Et moi, j'ai même une scie. En fait, c'est une scie pour les arbres, pas les branches d'arbres, que des fois je rentre dans le pot et je scie tout autour. Et des fois, même ça, ça ne marche pas si c'est collé au fond. En tout cas, oui, on peut faire ça. Absolument. Merci beaucoup pour le commentaire. J'apprécie quand les gens rajoutent des choses utiles.
Oui. Ben, ça me fait penser à quelqu'un qui fait une tarte ou un gâteau, en fait, et qui veut démouler son gâteau, qui doit faire le tour du gâteau pour être capable de sortir du moule en question. C'est l'image qui m'est venue.
C'est exactement ça qui se passe aussi.
Donc, Janine Caouette, est-ce qu'il est temps de semer les tomates?
Oh oui, dans bien des régions, c'est encore même trop tôt pour les tomates. Encore quelques 5-6 semaines. Quelques les cases, vous allez pouvoir sortir vos tomates et ça varie d'un endroit à l'autre. Chez moi, j'espère, je calcule à peu près 10 ans à Québec. Plutôt que ça, j'aimerais donc bien, mais habituellement, là, il fait encore trop frais. Mais à peu près le 10 en juin, là, et là, je peux reculer, calculer. Donc, 5-6 semaines avant la date où vous pensez pouvoir les transplanter en plein air, ça, c'est le bon moment pour les semer à l'intérieur.
Est-ce qu'on peut... C'est une question un peu personnelle qui me vient suite à cette question-là. Est-ce qu'on peut, par exemple, en Outaouais, donner une date approximative d'Outaouais à Gaspé, par exemple? On ne peut pas dire, en Outaouais, c'est entre autour de telle date et telle date, et Gaspé entre telle date et telle date, mettons.
OK. C'est ce que j'ai fait un peu dans mon livre sur les semences, mais c'est mis. J'ai donné une date pour la région, pour la zone 3, une date pour la zone 4, une date pour la zone 5, mais pour toute la province, non. Parce qu'il y a une grosse différence entre, disons, la Côte-Nord et Montréal. Donc, il va falloir calculer que c'est comme deux climats différents. Et dans chaque climat, ça va dépendre des températures. Donc, idéal, c'est pour la personne de son propre calcul.
D'accord. Donc, on va continuer avec Sylvie Duhamel. Au printemps dernier, j'y arrive. J'ai semé du thym mauve parmi ma pelouse et rien n'a poussé. Pourquoi, selon vous? Je vais peut-être me réessayer ce printemps.
OK. Parce que vous avez fait quand même une certaine gaffe, si on veut, dans le sens que ça peut se semer. Un thym, ça germe assez facilement, c'est pas possible. Mais là, vous l'avez semé dans un milieu déjà occupé. C'est pas évident que vous allez pouvoir introduire, surtout par semence, une nouvelle plante. Quand c'est déjà pris, l'espace est pris. Donc, vous lancez les graines par terre, ils tombent à travers les graines minées de gazon, et que voulez-vous que les plantes, les graines font? Elles n'ont pas accès à la terre, c'est couvert. Si jamais rien, ça commence à germer, la graminée à côté va l'eau, va les minéraux. Donc, ça ne vous donne pas de chance, vraiment. Donc, idéalement, si vous voulez semer à travers un gazon existant, l'idéal, ce serait de faire un terrotage. Terrotage, c'est quand une mince couche de terre en surface, vous l'égalisez, ça peut être 1 cm, 2 cm de terre en surface, par-dessus le gazon, et là, vous semez votre thym. Et quand vous faites ça, le gazon va tranquillement passer à travers. Mais là, vous vous donnez de l'espace libre dans lequel vos thym peuvent germer. Et là, on va avoir une certaine quantité de thym qui va réussir à prendre là-dedans. Donc, c'est une autre façon de faire.
Lise Doyon, y a-t-il un engrais vert que je pourrais mettre tôt au printemps pour pouvoir ensuite faire mes semis au jardin au même endroit?
Oh! Ça, c'est une bonne question. Habituellement, on fait ça sur 2 ans. Évidemment, là, je parle du Québec. Ailleurs, on peut faire ça la même année parce qu'on a une longue, longue, longue saison de jardinage. Mais chez nous, c'est pas évident, ça. Moi, je dirais que oui, pour les plantes qu'on sème en deuxième lieu. Par exemple, si vous on ne pourrait pas faire ça pour la première récolte de laitue. Mais on pourrait faire un engrais vert. Un engrais vert, pour ceux qui écoutent, c'est lorsqu'on sème une plante sur une surface non pas pour l'utiliser, pour manger ou pour embellir, mais on le sème dans le but de le laisser décomposer et enrichir le sol. Donc, on va le faucher avant qu'elle monte en graines. Et donc, dans un cas comme ça, on pourrait semer la luzerne ou l'une des nombreuses plantes de la famille du trèfle et les faucher. Et vous aurez quand même le temps pour une semis de laitue ou de radis ou quelque chose vers la fin de la saison. Mais je ne vois pas vraiment comment on pourrait faire sous notre climat pour une bonne récolte, pour la première récolte. On n'a pas assez de temps pour ça, sous notre climat.
Joanne Parent, j'ai parti mes canards et ils poussent un peu trop vite à mon goût. Déjà des pointes à 10 cm. Est-ce trop tôt pour commencer les bulbes d'été ces jours-ci?
Ça dépend des personnes, ça dépend des conditions, ça dépend même de la température dans votre maison. Parce que les canards aiment la chaleur. Et si c'est chaud, ça part plus vite que si vous les partez, il fait un peu frais, ça va les ralentir. Pour beaucoup de gens, c'est un peu pas le bon moment pour le faire. C'est terrible de partir trop tôt. Et d'ailleurs, je mets comme une différence entre un canard, un grand canard qui fleurit tard dans la saison. Oui, ce serait les semis, peut-être même, les planter même au mois de mars. Alors que les petits canards modernes qui fleurissent rapidement, moi, je dirais non, c'est peut-être plutôt mi-avril pour les partir. Et si on parle des dahlias, par exemple, les dahlias, je ne vois pas pourquoi ils partent plus que 4 semaines à l'avance. Sinon, c'est grossi trop vite et on a des problèmes avec. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut expérimenter. Et encore, il y a des facteurs hors de notre contrôle, mais les facteurs qu'on connaît. Vous connaissez votre plan, probablement. C'est un canard qui pousse vite, retarder le départ. Mais en tout cas, jouez avec ça. Vous allez voir.
Cécile Grondin. Que pensez-vous d'utiliser cette vivace pour faire une haie? La sylphie perfoliée a-t-elle besoin d'avoir des tuteurs et convient-elle pour un endroit semi-ombragé?
OK. Oui, ça pourrait facilement faire une haie. Aucun problème. On n'utilise pas beaucoup au Québec les haies de vivace, mais ça se fait très bien. C'est une plante qui, évidemment, vous aurez plein vu sur le terrain durant l'hiver, et au printemps, ça commence à pousser, c'est grand, c'est solide, ça n'a jamais besoin de tuteur, ça fait des grosses tiges carrées, c'est bizarre, hein? Les tiges sont carrées, et ça tient bien, puis là, vous avez une floraison de la mi-été jusqu'à la fin, en bon nombre. Donc, ça pourrait être intéressant, absolument, cette plante-là. On n'a pas des fois, si tu veux, quelque chose, des sirfs. En tout cas, ça attrape l'eau dans ses feuilles, les oiseaux viennent boire. Donc, c'est un peu une plante abreuvoir en même temps. Une plante intéressante, voilà.
Sylvie Lachance, elle dit, j'ai planté du thym moi aussi et ça n'a pas poussé. J'avais enlevé le gazon, j'ai essayé sur un autre terrain, j'ai mélangé avec de la terre, rien n'y fait. Oh. Elle dit à la blague, j'ai un demi-sac à vendre.
Ah oui, faudrait bien en rire. Ça se peut que vous avez eu un produit de mauvaise qualité. Et évidemment, je ne sais pas quand vous l'avez acheté, mais moi, je contacterai les fournisseurs parce que ce n'est pas normal. D'ailleurs, c'est facile à voir s'il y a vigueur dans une semence. Semer quelques graines sur un papier humide, un papier buvard, un papier de cuisine humide, dans un sac de plastique, s'il n'y a rien qui germe dans 2 semaines, parce que le thym, ça prend à peu près ça, 7, 8, 9, 10 jours. S'il n'y a rien qui germe, les semences ne sont pas bonnes. Ça se peut, ça. Il est possible que... Pourquoi, je ne sais pas, mais le fournisseur vous a donné des graines qui étaient déjà plus viables. Et ça expliquerait la situation.
Sylvie Lachance, encore elle. J'ai parti des graines de pavot en semis. Et rien ne pousse. Est-ce la bonne méthode?
OK. Et évidemment, je demande quelle sorte de pavot, parce qu'il y en a beaucoup de sortes. Les pavots annuels, comme le pavot somnifère ou le coquelicot, ce sont les pavots, ça. Ou le pavot de Californie. C'est des plantes, normalement, qu'on va semer à l'extérieur. On les sème pas dans la maison. On les sème directement dehors, ça pousse très vite, et ça n'aime pas le repiquage. Fait que là, ça pourrait peut-être vous aider à savoir ça. Par contre, peut-être que vous avez des pavots rustiques, vivaces, le pavot d'Orient, par exemple. Ça, on va le semer à l'intérieur, et ça tolère mieux la transplantation que les autres. Donc, s'il n'y a rien qui germe, je ne vous dis pas combien de temps, mais c'est le seul que j'aurais semé dans ma maison. Mais s'il n'y a rien qui germe, ce n'est pas bon. Et ce n'est pas vous, hein? Quelques semences, ce n'est pas bon. Encore ce truc-là, souvent ce que je fais, c'est je mets 10 graines, carrément 10 graines, sur un papier de cuisine, je replie par-dessus pour faire comme un sandwich, et je garde ça humide dans un sac à plastique. Et s'il n'y a rien qui lève au bout de 15 jours, disons, les semences sont pas bonnes. Et si c'est les semences que vous avez achetées, je me plaindrai au fournisseur.
Justement, Sylvie, Madame Lachance revient avec un détail. Elle dit que c'est du pavot d'Orient.
Ah, bon, justement, c'est ça que je suis. Oui, c'est ça qu'on peut porter dans la maison, c'est sûr, pour gagner de l'avance sur la saison. C'est une vivace qui va revenir de l'année en année. Donc, si au bout de 10 jours, 12 jours, il n'y a aucun pouce, ça se demande s'il n'y a pas un problème de qualité de semence. Et dans ce cas-là, peut-être voir avec le fournisseur.
Je pensais que j'avais plus de questions, mais il vient d'en avoir une autre. Deux autres même. Donc, on va y aller avec la première qui est apparue. Marie-Claude Reid. J'ai beaucoup de difficultés avec l'entretien de mon yucca. Un des troncs est mort. Pas de racines visibles. Des conseils pour l'arrosage ou l'entretien en général?
OK. Puisque vous parlez de tronc, on va présumer sur le yucca d'intérieur. Parce que le yucca, il y a des yucca vivaces, des yucca arbres, des arbres, c'est toujours tropical. Et en revanche, justement, des yucca avec un tronc dans les centres jardins, comme arbres d'intérieur. Donc, les conseils en général, c'est que maximum de soleil possible. Plein soleil. Et évidemment, vous regardez l'étiquette et ça vous dit, ça va à l'ombre, à la mi-ombre. Ah, il faut. L'explication pour ça, c'est quand même bizarre. Mais comme le pâte peut se vivre longtemps sous des mauvaises conditions et que l'attitude des vendeurs de plantes, je ne parle pas des Québécois nécessairement, mais le marché ou l'industrie, la plante intérieure, et que une plante est supposée, plante intérieure est supposée durer 8 semaines. Si elle vit 8 semaines, elle a rempli son travail, elle a rempli son engagement, et on n'est plus responsable. Donc, quand on achète un yucca et qu'elle peut passer 8 semaines à l'ombre, on va souvent la mettre en ombre en pensant que c'est bien, mais elle ne peut pas vivre à l'ombre. Elle se va le miner. Elle va mourir éventuellement. Mais le marchand dit, mais j'avais raison. Et la plante a quand même vécu 8 semaines à l'ombre. Donc, c'est correct. Mais la plante pour vivre a besoin de soleil. Beaucoup de soleil. Beaucoup de soleil. Donc, le maximum de soleil que vous êtes capable de donner. Côté arrosage, vous avez déjà un tronc d'enlevé, mais la plante n'a quand même pas besoin de beaucoup d'eau. C'est-à-dire que vous allez l'arroser abondamment. Quand on arrose toujours beaucoup. Vous arrosez beaucoup. Vous inondez presque les racines et là, vous laissez sécher. Et comme c'est une plante succulente, une plante qui garde l'eau dans ses tissus, vous allez laisser sécher pas juste une journée ou deux, mais 3, 4, 5, 6, encore plus l'hiver. Et là, vous arrosez comme il faut. Et pour le reste, c'est pas d'importance. Fertilisation, humidité, pas de problème là. C'est vraiment plein soleil et un arrosage adéquat. Voilà, c'est ça.
Lise Doyon. Peut-on préparer quelques semaines d'avance les rubans de semis de carottes? Elle dit qu'elle est au Québec en zone 5.
Oui, il n'y a pas de problème du tout de faire ça. Les carottes sont au sec, mais que ce soit les semences de l'année. Les carottes, ce n'est pas des graines qui durent très longtemps. D'autres plantes, des fois, on peut les conserver des graines 4-5 ans, des fois. Les carottes, là, c'est pas très durable. Mais oui, les semences prêt à semer, on peut faire des rubans de semences soi-même. quelques mois d'avance sans problème.
OK. Lynn Côté, à quel moment peut-on mettre des semis dehors dans une serre artisanale en zone 5?
OK. Ce serait bien que vous ayez un thermomètre qui vous indique les températures. Parce que c'est pas le jour. Je suis certain que vous serez capable d'avoir une belle température le jour. C'est à quoi ça descend la nuit. Et c'est ça qui va faire la différence. Pour la plupart des plantes qu'on va repiquer au Québec, on va viser pas moins de 12 la nuit. 10, c'est correct. Mais disons 12 la nuit pour être plus certain. Et si vous êtes rendu là, bon, je ne pense pas à cette date-ci, mais peut-être dans un mois, quand vous êtes rendu que le top dépasse, descend jamais en bas de 12 ou 10 la nuit, vous pouvez vraiment mettre les choses là plus en permanence.
H.E. Caron, je ne sais pas comment prononcer le prénom, désolé. J'ai des semences d'hibiscus vivaces, devrais-je les semer dans la maison ou directement en terre?
Moi, je suggère de les semer dans la maison. C'est une plante qui germe lentement. Les graines sont dures, ça germe très lentement et on en perd le contrôle un peu dans le jardin. Donc, moi, je suggère le traitement suivant. Prenez les graines, faites-les tremper dans l'eau tiède ou même chaude pendant la nuit. Moi, je prendrais un contenant isolé. Faites-les tremper toute la nuit dans l'eau chaude presque. Et ça va aider à absorber et aider les plantes à germer. Là, prenez les graines, encore de relativement bonne taille, les plantes dans un pot, en les couvrant comme il faut, et les exposer maintenant à la plante à une bonne chaleur et dans un terreau normal. Humidité moyenne et terreau normal. Ça se peut que ce soit un peu frais chez vous, je ne sais pas. Si vous avez un tapis de chauffant, pour être utile. Mais à cette date-ci, en général, ce n'est pas un problème. Vous allez voir que ce n'est pas vite au tout début, mais une fois que ça part, ça part. Et là, on peut suivre un repiquer quand les plantes sont assez gros pour le faire.
Eh bien, malheureusement, on est déjà rendu à la fin de l'émission, Larry.
Ça passe
tellement vite, une heure.
Incroyable. Bon, OK. Ben, je vais dire bonjour tout le monde. Merci beaucoup encore à Michel, qui est là pour comment poser des questions et pour gérer toute l'émission, dans le fond. Et je vais en remercier aussi Madame Bordelot, que vous ne connaissez pas, mais qui est cachée en arrière encore.
Elle est très là ce matin, je la vois, là, elle est très, très là. Elle fait des coucous.
Bye-bye. Et on va dire bye-bye à tout le monde. Je vais te retrouver la semaine prochaine, donc toujours mercredi à 10h. Et n'oubliez pas d'aller voir sur mon site web, www.jardinperreçu.com. Bonne semaine, de bon jardinage. Pas à l'intérieur, bon jardinage pareil.
Bye-bye.
Urbaine. Culture, c'est votre grand rendez-vous culturel et épicurien en compagnie de Julie Réaume. Musique, entrevue avec des grands noms, des artistes de la relève, arts visuels, arts de la scène, choix de sortie, grands événements, bouffe et plus encore. Culture, c'est à ne pas manquer tous les jeudis, 11h, sur CKIA 88,3 et CKIAFM.org. On vous y attend.
Apprendre à vivre avec le virus, c'est d'abord demeurer prudent. On doit continuer de porter le masque et de se laver les mains. Dès l'apparition de symptômes, il faut s'isoler et passer un test de dépistage. Si on a la COVID-19, il est important de respecter la période d'isolement, car on peut demeurer contagieux pendant au moins 10 jours. Les personnes les plus à risque de développer des complications en raison de leur âge ou d'une immunosuppression doivent être très vigilantes. Et pour une meilleure protection encore, on doit se faire vacciner. Un message du gouvernement du Québec.
J'ai cotisé pendant des années. Comment ça, j'ai pas le droit au chômage?
L'assurance-emploi te ferme la porte au nez? Action chômage de Québec défend tes droits. Visite le actionchômage.org ou abonne-toi à notre page Facebook, facebook.com/actionchômage.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui!
Cessez de vous taper la tête sur les murs! Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux!